Je vous propose d'entendre cet évangile comme une parabole. Une parabole de ce qui s'est passé à Noël pour beaucoup de familles. Pour beaucoup de familles qui sont venues à la messe à Noël et qui ont laissé Jésus à l'église. Joseph et Marie sont repartis sans Jésus. Davantage que c'est lui qui est resté. Sont eux qui sont partis sans lui. Et si c'est arrivé à Marie et Joseph, c'est pour que nous comprenions bien que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. De venir à la messe et de laisser Dieu à l'église. De vivre le reste du temps sans Dieu. On peut toujours se demander pourquoi l'ont-ils laissé ? Qu'avaient-ils en tête qui les ait préoccupés, qui les ait distraits à ce point-là ? Les parents le savent, une bonne dose de fatigue est déjà une bonne explication. Je voudrais ce matin réfléchir avec vous au modèle économique et politique de la Sainte Famille. Étant entendu, étant posé d'emblée, qu'il ne s'agit pas de regretter un passé, il ne s'agit pas de regretter un monde où la famille avait meilleure place, une organisation du passé. Il s'agit encore et toujours de revenir à Dieu. C'est le cri en permanence, pas seulement pour le début du carême. Revenez à Dieu de tout votre cœur. De revenir à lui pour revenir avec lui. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Chaque année, les parents de Jésus économisaient, mettaient de l'argent de côté pour pouvoir se rendre à Jérusalem pour la fête de la Pâque, pour pouvoir payer ce pèlerinage. Il fallait payer un tribut à l'organisateur de la caravane, il fallait payer l'impôt pour le temple, il y avait toutes sortes de frais qu'il fallait prévoir, on pouvait toujours apporter le maximum de nourriture et de vivres, il y avait un minimum de frais sur place. Et pour des pauvres, et les parents de Jésus étaient des pauvres, c'était cher. À l'époque, on ne va pas dire déjà, à l'époque, le peuple souffrait des multiples taxes dont il fallait sans cesse s'acquitter. Mais qui à l'époque étaient à sens unique. À sens unique. Ils ne touchaient aucune aide de l'État. Il n'existait rien de gratuit. Les soins, la santé, l'école, l'éducation, gratuit, c'est une invention chrétienne. C'est un apport majeur du christianisme à l'ensemble de l'humanité. Et voyez avec quelle délicatesse l'évangéliste passe sous silence le coût du voyage. La plupart des enfants découvrent très tard, probablement quand ils deviennent parents à leur tour, à quel point leurs parents se sont sacrifiés pour eux. Même chez les riches, si je puis dire. Même dans les familles relativement aisées, les parents calculent, économisent, épargnent pour leurs enfants. Et ce mois-ci, à la réunion de préparation au mariage, je l'ai dit aux fiancés, je les ai mis en garde, je leur ai dit, la vie commune, fonder une famille, ça change le modèle économique. Et je comprends ceux qui ne veulent pas d'enfants, c'est cher. Comparez cette scène du début de l'évangile de Saint-Luc avec celle qu'on trouve au début de l'évangile de Saint-Jean, également dans le temple, celle qu'on appelle de l'expulsion des vendeurs du temple. Ne croyez pas qu'en 20 ans, l'ambiance dans le temple est à ce point changée, que le commerce ait en 20 ans envahi le temple du temps de Jésus, qui était, lorsqu'il est venu à 12 ans, un lieu de discussion, de réflexion, d'enseignement théologique. Ne croyez pas que le temple ait changé. À 12 ans, simplement, Jésus n'y a pas prêté attention. 20 ans après, il retourne, c'est ce que nous avons entendu au troisième dimanche de Carême, pour la Pâque. Il monte à Jérusalem, et dans le temple, il trouve installés tous les marchands de bœufs, de brebis, de colombes, et il dit, enlevez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon père, une maison de commerce. C'est un problème qui est permanent, qui est toujours actuel, que nous connaissons bien, qui n'est pas l'argent, qui est son envahissement, la place disproportionnée qu'il a pris et qu'il prend, qui fait qu'il transforme la culture en commerce, l'art en commerce, toutes les activités humaines désormais en commerce, qui fait qu'on en finit par perdre la joie de vivre, la joie de la gratuité, la joie d'espérer, la joie de croire. Et c'est vrai des pauvres comme des riches. Il y a un livre de sagesse de l'Ancien Testament, l'Ecclésiastique, qu'on appelle maintenant le Siracide, qui dit « Les insomnies que cause la richesse sont épuisantes. Les soucis que la richesse que ça apporte, ça enlève le sommeil. » Le propos de l'époque, ce propos du sage, s'adresse à des lettrés, des gens cultivés, à l'élite de l'époque, qui imaginaient que l'étude, le travail, et dans bien des cas l'héritage, viendraient à bout des angoisses matérielles. Mais, j'en témoigne, je peux en témoigner, il y a autant d'angoisses chez les riches que chez les pauvres. Il y a autant d'angoisse parce que l'angoisse n'est qu'en apparence matérielle. Parce que le sujet n'est pas le matériel dans l'angoisse. Quand je vous ai envoyé en mission, dit Jésus au dernier repas à ses disciples, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Quand je vous ai envoyé sans rien, sans argent, sans bourse, ni sandales, ni rien, aucune affaire de rechange, quand je vous ai envoyé dépouillé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et ils sont forcés de le reconnaître. Non, de rien. Je pense à ces personnes qui m'expliquent, et je les crois, qu'il faut qu'elles coupent avec leur famille. Impérativement, que leur famille est toxique et qu'il faut qu'ils coupent avec elles. Mais qui ne veulent pas renoncer pour autant à leur part d'héritage. Je leur dis, vous ne pouvez pas renoncer à l'héritage moral sans renoncer à l'héritage matériel. Ça va ensemble, c'est un ensemble. Il faut payer le prix de sa liberté. Vous êtes libre, mais payez le prix de votre liberté. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est toujours les inégalités que l'argent suscite. Et lorsqu'on parle d'une église pauvre pour les pauvres, le sujet n'est pas de savoir si l'église doit être plus pauvre ou moins riche, mais d'une église avec moins d'inégalités entre nous. Entre l'ensemble des membres, lorsque Jésus chasse les marchands du temple, que chasse-t-il? Les signes les plus choquants d'inégalité entre les riches qui peuvent se payer du bétail et les pauvres qui doivent se contenter de la volaille. Et entre les deux, les compteurs, les changeurs qui comptent, qui évaluent, qui mesurent. Les problèmes dans l'Église, ce sont les inégalités d'une paroisse à l'autre, d'un diocèse à l'autre, d'un pays à l'autre, entre nos vieux pays qui ont trop d'églises à ne pas savoir qu'en faire. Et les jeunes pays qui n'en ont pas assez. Il faut quand même se souvenir, il n'y a pas longtemps en France, il y avait des enterrements de première classe, deuxième classe, troisième classe. Et un catholique révolté, Léon Blois, à la fin du 19e siècle, en a témoigné, il n'a pas pu avoir d'obsèques pour son enfant parce qu'il était trop pauvre. La famille de Jésus ne pouvait compter sur aucune aide sociale. De la part de quelques-uns de ses membres, de leur famille, oui, de la communauté religieuse, peut-être, à peine. Aucune aide sociale. Voyez, en quelques décennies, comme nous sommes passés d'un excès à l'autre, du tout familial, où nous dépendions totalement du milieu familial, au tout social. Il y a peut-être un équilibre à trouver. Les parents de Jésus ont été frappés d'étonnement en le voyant dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi, en train de dialoguer avec eux. Vous vous souvenez de la réaction des disciples un jour qu'on avait amené des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse? Ah, ne dérangez pas le maître. Joseph et Marie sont sidérés. Non pas par l'attitude de Jésus, c'est comme ça qu'il se comportait avec eux. Il les écoutait, leur posait des questions et eux s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. C'est ce qu'ils vivaient avec lui. Mais ils sont sidérés de la part des docteurs de la loi. Ils n'imaginaient pas ça possible de leur part. C'est une scène prophétique, ça s'appelle la conversion des intellectuels. Lorsque les enfants deviennent nos maîtres, lorsqu'on écoute les petits, les pauvres. Si on parle aux enfants uniquement de questions matérielles, il ne faut pas s'étonner que les politiques et les médias fassent de même. Ce sont des caisses de résonance de nos propres préoccupations. On ne peut pas se plaindre que nos politiques ne tiennent pas leurs promesses, soient infidèles et menteurs, quand, dans un pays comme le nôtre, la moitié des couples mariés divorcent et ne tiennent pas les engagements qu'ils ont pris, ils ne peuvent pas reprocher à leurs représentants d'en faire autant. Une famille ne se construit pas à partir des pratiques sociales. C'est exactement le contraire. Une société se construit à partir des valeurs familiales. Une société est la somme des efforts de ceux qui la composent. Vous voulez changer la société, nous voulons changer la société. Eh bien, commençons par changer d'attitude en famille. Comportons-nous exactement comme on l'entend dans la deuxième lecture, en mettant notre foi dans le Christ, mais surtout, aimez-vous les uns les autres. La deuxième lecture de l'Anéa, puisque les textes tournent d'une année sur l'autre, il faut pouvoir la rappeler parce qu'elle est toujours magnifique. Elle dit, « Enfants, écoutez vos parents. » C'est ça qui est beau dans le Seigneur. Et le texte ajoute, « Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. » Enfin, voyez ceci. Les parents de Jésus ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils ne comprirent pas. Ça ne l'a pas empêché, lui, de continuer à leur être obéissant. Il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Et c'est ainsi que Jésus grandissait en sagesse, en taille, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Enlevez Dieu, les enfants peuvent continuer à grandir en taille. Comme disait le curé d'Ars, laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Eh bien, c'est vrai des familles comme de la société. Depuis 50 ans sans religion, au bord de la dislocation. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons si nous gardons ses commandements et si nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Revenez à lui et revenez avec lui.